corrigé du texte à trous sur la notion de religion. Alors, la religion, c'est une notion qui est extrêmement intéressante. Cependant, d'un point de vue vraiment très pragmatique pour le baccalauréat, il faut dire que c'est une notion qui ne tombe pas souvent, voire pas du tout en tant que telle, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un sujet qui est un petit peu tendu, politiquement parlant. Donc, les concepteurs des sujets de baccalauréat évitent de donner des sujets qui soient vraiment directement sur la question de la religion, et on va plutôt trouver, en général, ces dernières années, des dissertations ou des textes qui renvoient à la question de la croyance et à l'opposition entre le savoir et la croyance, plutôt que des sujets vraiment directement, spécifiquement sur la question de la religion. Le deuxième problème avec cette notion de religion, c'est le problème de la culture générale. C'est-à-dire que la plupart des élèves, la plupart des gens au final, ont une connaissance des religions qui est assez limitée. Soit limitée à leur propre religion, soit tout simplement limitée en général, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les religions. Et ça, forcément, ça limite la possibilité de réfléchir philosophiquement sur le sujet. Si c'est un peu comme sur l'art, si on n'y connaît pas grand-chose et qu'on n'est pas capable de se référer à des œuvres d'art, eh bien, ça va être quand même beaucoup plus difficile d'approfondir la réflexion. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir les vidéos que je vous ai mises en lien, qui sont assez courtes et rapides, qui sont bien faites et qui permettent d'enrichir la culture générale sur les principales religions présentes dans le monde, et en France en particulier. Nous allons donc procéder à la correction du texte à trous. Comme d'habitude, on commence par l'étymologie du mot religion. Alors, c'est une étymologie qui est incertaine. C'est pour ça que, eh bien, c'est présenté sous la forme du soi-soi. Religion, ça vient probablement soit du latin religere, qui signifie réunir, rassembler. Et là, ça insisterait sur, on va dire, la fonction fédératrice de la religion qui réunit, qui rassemble soit des croyances, soit simplement des personnes. Ou ça peut venir aussi de religare, qui signifie lier, relier. Vous voyez qu'ici, vous avez aussi un peu cette notion de créer, de réunir, de créer du lien. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que une religion, c'est quelque chose qui fédère, qui relie, qui réunit, qui rassemble. Alors, plus précisément, comment définir ce qu'est une religion? Ce n'est pas très simple parce que, alors si vous allez justement voir les vidéos Lumni de culture générale, en fait, il va y avoir quand même des différences notables entre les religions. Je vais en prendre une qui est importante. La question de savoir. En fait, on pourrait penser au départ que la religion fait référence toujours à un dieu ou à des dieux, et pourtant vous avez des religions qui sont non théistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dieu dans ces religions. C'est le cas du bouddhisme, par exemple. Donc, ce n'est pas forcément si simple que ça de produire une définition de ce qu'est la religion, en tout cas, ça veut dire qu'il faut trouver des points communs à toutes les religions, et c'est ce que j'ai essayé de faire donc dans les définitions que je vous donne. Donc, ce qu'on peut dire, petit a, c'est que la religion, c'est un ensemble de choses, c'est un système. Donc, c'est un système de trois éléments qu'on est normalement assuré de retrouver partout. Alors, le premier tiret, c'est donc l'élément numéro un du système, ce sont les croyances. On associe généralement la religion à l'idée de croyance. Donc, système de croyance définissant d'une part les rapports que les hommes ont avec un ou plusieurs êtres surnaturels, presque toujours une ou plusieurs divinités. D'autre part, la nature de ces forces. L'ensemble de ces croyances considérées par les fidèles comme des vérités est appelé le dogme, qui a donné l'adjectif dogmatique, qui désigne celui qui est absolument certain de la vérité de ses croyances, contrairement au sceptique qui, lui, est dans le doute. Je vais m'arrêter là pour reprendre certains éléments. Donc, on a des croyances dans les religions Et ces croyances, elles portent sur le domaine du surnaturel, de ce qui explique en général ce qui se passe dans la nature et l'explique par des forces qui soit sont à l'intérieur et ont une forme de supériorité, soit sont carrément à l'extérieur. On verra plus tard la différence entre l'immanent et le transcendant. Donc il y a presque toujours, j'insiste sur le presque toujours, je vous ai déjà parlé du bouddhisme, il y a presque toujours des divinités, mais pas forcément. Et ensuite, nous avons des croyances qui vont définir ce que sont ces forces ou ces êtres surnaturels. L'adjectif dogmatique que vous avez peut-être déjà entendu, il désigne de manière générale des gens qui sont très sûrs d'eux, qui ont une conviction. Quelqu'un de dogmatique, c'est quelqu'un qui parle avec beaucoup d'assurance, qui ne présente pas de doute. Ça s'oppose donc à une personne, donc on va dire sceptique. Sceptique, ça vient de skeptikos, qui signifie le doute en grec. Voilà, donc le dogme, le principe dans une religion, c'est que les croyances sont vécues par les croyants comme des vérités, et des vérités qui sont des vérités certaines, assurées, qui ne présentent pas de doute. C'est pour ça qu'on appelle ça un dogme. Ensuite, donc, en plus de ces croyances, en général, dans une religion, vous avez des éléments qui sont relatifs à la morale. Donc, il y a généralement des règles définissant, donc c'est le deuxième tiret, hein, des règles définissant les rapports que les hommes doivent avoir entre eux, ce qui constitue une morale. C'est le cas dans la majeure partie des religions, et notamment les cinq grandes religions qui sont présentées dans les vidéos Lumni. Je rappelle que ces religions sont les cinq grandes religions du monde, c'est-à-dire celles qui sont les plus pratiquées. C'est en l'occurrence le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et l'hindouisme. Donc il y a généralement des règles que vous connaissez très certainement. En tout cas, on peut prendre le ramadan, par exemple, pour les musulmans, on peut prendre le devoir de charité qui est présent dans beaucoup, beaucoup de religions, en islam, dans le christianisme aussi. Voilà, donc il y a pas mal de règles comme ça qui définissent la conduite des individus et constituent une morale. Et ensuite, vous avez troisième élément, des pratiques. Les pratiques, comme quand on dit de quelqu'un qu'il est croyant et pratiquant. C'est-à-dire qu'il n'a pas simplement, il n'adhère pas simplement aux croyances de la religion, il va aussi participer à des cérémonies, à des rites. Et donc ces pratiques, c'est ce qui constitue le culte. Vous pouvez souligner le mot culte. Le culte, c'est l'ensemble de ces pratiques cérémonielles, rituelles, qui vont structurer la vie de la communauté religieuse. Cette communauté religieuse, c'est ce dont je parle dans la suite de ce paragraphe. Ce système de croyances, de valeurs et de pratiques unit une communauté de fidèles, ceux qui partagent la même foi. Fidèles, ça vient, c'est la même famille que le mot foi, ça vient du latin fides, qui signifie la foi, tout simplement. Donc les fidèles, c'est tous ceux qui partagent la même foi et qui sont donc loyaux envers la religion en laquelle ils croient. Donc ça, c'est le premier élément de définition des religions. Ensuite, vous pouvez avoir, et ça n'est pas le cas dans toutes les religions, donc c'est pour ça que je l'ai mis à part en petit b. En gros, ce que vous avez en petit a, c'est ce qu'on va retrouver vraiment dans toutes les religions. Ce que vous avez en petit b, c'est plus particulier, donc on va parler de religion, de la religion en tant qu'institution qui énonce ce dogme, cette morale et qui organise le culte. L'exemple qu'on peut prendre tout simplement, quand on parle du catholicisme en tant qu'institution, cela inclut la hiérarchie catholique, les prêtres, les évêques et toutes les formes d'organisation qui s'y rattachent. Donc je prends l'exemple de la religion catholique parce que c'est vraiment celle qui est la plus institutionnelle. Sûrement de toutes les religions. D'ailleurs, il y a un état qui correspond à cette religion, c'est l'état du Vatican. Le chef de cet état, c'est aussi le chef de l'ensemble de l'institution religieuse, c'est le pape. Et ensuite, dans chacun des autres états où il y a une communauté de chrétiens, eh bien, il va y avoir des évêques, des prêtres, etc. Donc toute une hiérarchie qui va organiser donc la communauté, les rites, les pratiques. Voilà. Donc ça, c'est le sens petit b, la religion en tant qu'institution. Ensuite, la religion, petit c. Alors la religion, on peut utiliser ce mot pour parler du sentiment subjectif éprouvé par quelqu'un. Quand on dit par exemple de quelqu'un qu'il a de la religion, ou qu'il est religieux, c'est qu'il a, il peut avoir ce sentiment, donc sentiment de crainte et de soumission à l'égard d'une puissance surnaturelle, généralement décrite par des récits traditionnels. Ici, vous avez un autre terme qui peut être synonyme et que on emploie alors assez souvent en philosophie, donc le terme de piété. La piété, c'est le fait de manifester ce sentiment religieux, et on reprochait notamment à Socrate d'être impie, c'est-à-dire de ne pas manifester le sentiment religieux qu'il devrait manifester envers les dieux de la cité athénienne, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été condamné à mort, entre autres, parce qu'on lui reprochait aussi de donner de mauvaises idées aux jeunes gens et de corrompre la jeunesse. Donc, le synonyme de piété ou de dévotion, c'est donc ce sentiment de crainte et de soumission. L'exemple que je donne, voilà, c'est cette phrase, il est profondément religieux. Enfin, donc nous avons le petit d, c'est la religion au sens peut-être un petit peu plus individuel, ensemble des croyances à travers lesquelles s'énonce et se vit une foi individuelle. Donc là, j'ai pas mis d'exemple, mais parfois on va entendre de la part de certaines personnes qui énoncent un petit peu leurs principes, etc. On peut les entendre dire « c'est ma religion ». C'est ma religion, ça signifie que très certainement, en fait, ils n'adhèrent pas nécessairement à une religion officielle ou à une religion collective ou à une communauté religieuse, mais ça ne les empêche pas d'avoir des principes qui relèvent de croyances, de sentiments individuels. Voilà pour le terme religion. Maintenant, on va passer aux termes qui sont associés au champ lexical de la religion et donc aux termes qui sont importants, que vous allez retrouver très souvent dans les textes philosophiques et sur lesquels on s'interroge. Donc, deuxième terme important du champ lexical de la religion, la foi. Je vous ai dit tout à l'heure que foi, c'était la même étymologie que fidèle, ça vient du latin fides. Fides, ça signifie la foi, la confiance. Donc, la foi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un type de croyance. Comment elle se définit par rapport aux autres croyances? Eh bien, il s'agit, quand on a la foi, si je dis que j'ai la foi, il y a quelque chose qui est très intense. Je dis pas simplement, tiens, je crois en cela. Non, je dis j'ai la foi, c'est que cette croyance, elle est profonde. Donc, la foi, c'est une croyance profonde concernant des enjeux majeurs de l'existence humaine. Le rapport aux autres, avoir foi en quelqu'un, ou le rapport à Dieu et au salut de l'âme après la mort. Avoir, c'est le fait d'avoir une foi religieuse. On oppose souvent la foi et la raison. La foi est fondée sur une intuition subjective, généralement vécue sur le mode de la révélation, c'est-à-dire d'une vérité qui se montre à l'esprit sans aucune sorte d'intermédiaire dans une expérience subjective intime. Et là, je vous renvoie à des repères du programme. Les repères, donc, ce sont des termes, des oppositions, des termes techniques qu'on utilise souvent en philosophie. Donc là, c'est la différence entre l'intuitif et le discursif, déjà évoqué dans le cadre de la notion de raison. Et vous voyez qu'ici, je reviens à cette notion de raison, parce que on peut opposer la foi et la raison, notamment parce que la raison est discursive, elle raisonne, elle prouve, alors que la foi, eh bien, c'est quelque chose que je ressens sur le mode de l'intuition, et je n'ai pas forcément la foi parce qu'on m'a prouvé quelque chose, mais parce que je le sens de manière intime et intuitive. Et vous avez le repère média-immédiat. Donc la foi, elle relève de l'intuition, et l'intuition, c'est quelque chose qui est immédiat. Ça ne passe pas par autre chose. Ça ne passe pas par un discours rationnel. Ça ne passe pas par un raisonnement. Par conséquent, avec cette réflexion sur la foi, cette définition de la foi, on commence à aborder un problème qui est celui de l'opposition potentielle entre la science et les croyances, la religion et la raison. Passons maintenant à une troisième notion associée à la question de la religion. Évidemment, il s'agit de la question de Dieu. C'est le petit 3. Donc, Dieu. On va d'abord avoir dans les religions, alors vous voyez, il y a un Dieu petit a, les religions, et Dieu petit b en philosophie. Je vais distinguer le Dieu des religions et ce qu'on appelle aussi le Dieu des philosophes, puisque en philosophie, on parle de Dieu, mais on parle de Dieu sur un autre mode que le mode de la religion. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, petit a, religion. Dieu, c'est un être puissant et surnaturel, parfois personnel, c'est-à-dire qui est une personne, mais il n'est pas forcément une personne, Dieu, dans certaines religions, souvent cause du monde et ou des règles morales. Donc, il est généralement à l'origine du monde et c'est ce qui en fait un être que l'on va vénérer, etc. Alors, il peut être immanent, c'est-à-dire appartenant au monde, comme dans les religions polythéistes, ou transcendant, c'est-à-dire hors du monde dont il est le créateur, comme dans les religions monothéistes. Je rappelle que les trois religions monothéistes sont le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ceci renvoie au repère 29, donc la différence entre immanent et transcendant. L'immanent, c'est ce qui est interne. En gros, si on veut résumer la différence entre l'immanent et le transcendant, donc l'immanent, c'est ce qui est interne. Donc, on peut avoir la force créatrice du monde qui est à l'intérieur du monde, mais on peut aussi avoir cette force créatrice qui est à l'extérieur. Et à ce moment-là, en fait, Dieu n'est pas vraiment dans le monde. Il est en dehors et il a créé le monde de la nature. Voilà pour le Dieu des religions. Et ce Dieu, eh bien, on y croit, il existe quand on en parle dans une religion, quand on le vénère dans le cadre des cérémonies ou des rites. Et ça, c'est assez différent du dieu, ce qu'on appelle le dieu des philosophes. Alors, il ne faut pas croire que la philosophie est une religion, mais la philosophie s'intéresse, premièrement, s'intéresse à peu près à tout ce qui touche l'existence humaine, mais se voit souvent amenée à réfléchir sur Dieu en tant qu'idée, en tant que concept. Nous avons l'idée de Dieu. Même si on ne croit pas en Dieu, ben, il n'empêche que on a une idée de ce qu'est Dieu ou de ce que pourrait être Dieu s'il existait. On a le concept de Dieu. Donc, en philosophie, Dieu c'est une idée et c'est l'idée d'un être absolu, c'est-à-dire qui existe de manière parfaitement indépendante. Un être absolu en soi et par soi, généralement caractérisé par la perfection. Il est principe d'être et de connaissance. En général, quand les philosophes se réfèrent à Dieu, alors ça peut être parce que ils sont par ailleurs eux-mêmes religieux, hein. Vous avez beaucoup de philosophes, notamment Pascal. Pascal, c'est un scientifique, c'est une figure intéressante parce que c'est un grand scientifique et c'est en même temps quelqu'un qui a une très grande piété chrétienne et qui cherche à défendre le christianisme dans ses écrits. Donc il y a beaucoup de philosophes qui sont tout à fait religieux. Mais en général, quand ils parlent de Dieu, ils parlent de l'idée de Dieu et de cet être parfait et absolu qui est à la fois l'origine des choses qui existent, qui crée les choses, mais qui est aussi ce qui permet de connaître ces choses. Donc c'est ça un principe d'être et de connaissance. On retrouve cette idée déjà dès le début de la philosophie chez Platon, etc. Cette idée de Dieu, même dans le cadre d'un penseur qui fait pas partie d'un monde spécialement monothéiste. Mais vous avez chez Platon l'idée d'un dieu démiurge qui est le grand artisan de l'univers, par exemple. Voilà, donc ça c'est l'idée de Dieu. Et ensuite, nous avons donc dans le quatrième paragraphe, je vous propose une série de termes qui donc font également partie du champ lexical de la religion et qu'on va évidemment utiliser beaucoup pour finalement qualifier chacun d'entre nous. D'une certaine manière, chacun d'entre nous est soit religieux, théiste, déiste, athée ou agnostique. Ça définit en gros notre attitude personnelle vis-à-vis de la religion. Alors, quelqu'un de religieux. Le religieux appartient à une religion instituée. Je m'arrête là, petit exemple. Ben, vous êtes chrétien, vous appartenez, vous croyez dans la religion chrétienne et vous appartenez à l'institution catholique ou, d'ailleurs je dis chrétien, hein, donc catholique ou protestante, à l'une de ces institutions. Ensuite, vous pouvez être, alors c'est là, ça va dépendre de la religion que vous avez, mais vous allez pouvoir être théiste ou pas. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure, en premier lieu, il y a une grande différence entre le bouddhisme et les autres religions, c'est que dans le bouddhisme, il n'y a pas de dieu. Vous pouvez être donc religieux bouddhiste, mais dans ce cas-là, si vous êtes bouddhiste, ben, vous êtes non-théiste. Vous ne croyez pas en un dieu transcendant et créateur, comme dans les religions monothéistes. Mais vous ne croyez pas non plus d'ailleurs à des divinités, comme dans les religions polythéistes. Ensuite, vous pouvez parfaitement croire en Dieu, mais ne pas être religieux, dans le sens où vous n'adhérez pas à une religion officielle. Et là, vous allez être déiste. Le déiste, c'est celui qui admet l'existence d'un Dieu créateur du monde naturel tout en rejetant les religions révélées. Le déisme, c'est une religion naturelle. Alors ça, je m'arrête aussi un petit peu là-dessus, parce que, en fait, le déisme, ça va être, grosso modo, c'est une position qui est assez fréquente, c'est-à-dire que si on vous demande « est-ce que vous croyez en Dieu ?», eh bien, vous allez peut-être répondre « oui », mais vous ne croyez pas dans ni dans le christianisme, ni dans l'islam, ni dans le bouddhisme. Tous ces dogmes ne vous conviennent pas pour diverses raisons. Par contre, vous croyez qu'il y a un dieu qui a créé le monde. Vous êtes déiste. Donc, il y a une différence entre croire en Dieu et être religieux. Être religieux au sens appartenir à une religion. J'espère que c'est clair. Maintenant, on passe à la quatrième possibilité. Vous pouvez être athée. L'athée, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui nie l'existence de Dieu. C'est celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas que Dieu existe. D'une certaine manière, c'est une affirmation dogmatique, c'est une forme de croyance. L'athée, c'est pas celui qui doute. Celui qui doute, c'est la dernière catégorie, c'est l'agnostique. L'athée, c'est celui qui dit « non, Dieu n'existe pas ». Il n'y a pas d'être parfait qui serait la cause du monde. Vous n'y croyez pas, vous êtes athée. Donc l'athée nie l'existence de Dieu et agit comme si Dieu n'existait pas. C'est ce qui définit l'athée. Et maintenant, dernière catégorie, l'agnostique est étymologiquement celui qui ne sait pas. Il refuse donc de se prononcer sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Je ne sais pas. Si on vous pose la question « est-ce que vous croyez en Dieu ?», bah, peut-être que vous allez vouloir dire bah, « je sais pas en fait, je ne sais pas s'il existe, je ne veux pas me prononcer, je ne crois pas qu'il existe, je ne crois pas qu'il n'existe pas, je n'ai pas de preuve de cela », parce que bah, justement la question de l'existence de Dieu fait partie des questions métaphysiques, c'est-à-dire que ce sont des questions qui portent sur quelque chose dont on ne peut pas faire l'expérience, dont on ne peut pas faire la preuve. Même si par ailleurs il y a des preuves de l'existence de Dieu qui ont tenté d'être données, mais c'est en tout cas une question complexe, et en l'absence de preuves, on va dire qu'on va rester dans le doute, et donc on va rester agnostique. J'espère que tout ça aura été clair. Maintenant, je voudrais regarder avec vous quand même rapidement les questions qui sont les questions qui sont des sujets de bac et qui mettent en évidence les grandes lignes de problèmes autour de la question de la religion. Le premier sujet, à quoi tient la force des religions ? Ça va être vraiment une ligne de problématique forte. Les religions, c'est un phénomène qui est un phénomène universel dans l'humanité. On voit que ça a justement de fortes implications politiques, notamment. Donc, et puis les personnes qui ont la foi, ce sont des personnes qui peuvent avoir vraiment des convictions extrêmement fortes et profondes. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort dans les religions, et on peut se demander à quoi tient cette force. Deuxième sujet, la religion unit-elle ou sépare-t-elle les hommes? Ça, finalement, c'est directement dans l'étymologie de religion, cette idée qu'il y a, la religion relie, qu'elle crée du lien. Mais en même temps, ben, quand on crée du lien entre une partie des êtres humains, on peut en exclure une autre partie. Et on sait très bien, ça c'est tout simplement un problème concret, que les hommes peuvent se faire la guerre pour des raisons religieuses, qu'on appelle les guerres de religion. Donc la religion unie, et de la force de cette union peut aussi apparaître ben, la force de l'exclusion et la force des conflits entre personnes de religions différentes. L'humanité, alors troisième sujet, l'humanité peut-elle se concevoir sans religion? Là, c'est vraiment ce problème de l'universalité qu'on constate du phénomène religieux. Est-ce qu'on peut imaginer un monde, une humanité sans religion, c'est-à-dire qui serait soit athée, soit dans laquelle il n'y aurait pas d'institution religieuse. Est-ce que c'est en gros une nécessité pour l'être humain d'avoir une religion? L'être humain est-il naturellement et nécessairement religieux? Ensuite, vous avez bah, le quatrième sujet, les croyances religieuses sont-elles irrationnel. Ici, on est vraiment sur la question du rapport science-religion. C'est-à-dire que dans la série des problèmes concrets que peuvent poser les religions, eh bien, il y a le problème de l'opposition entre science et religion qu'on va retrouver, par exemple, bah, parfois dans le contexte de l'école. Aux États-Unis, on va avoir des lobbies religieux qui vont être très forts et qui vont essayer d'influencer les programmes scolaires, notamment, on peut penser à tout ce qui concerne la biologie, notamment la théorie de l'évolution de Darwin, qui ne se concilie pas très très bien avec ce qui peut être dit dans la Bible de la création des espèces par Dieu. De manière générale, l'une des grandes différences entre les sciences et les religions, c'est que les dogmes religieux, donc les vérités religieuses, elles sont des vérités qui sont intouchables et qui peuvent bah, parfois être très très anciennes, hein, parce que les religions monothéistes sont très anciennes, et par conséquent, étant donné que la science, elle évolue, elle est progressive, elle est cumulative, ou elle peut même considérer que certaines théories sont dépassées et ont changé complètement parce que de meilleures sont apparues. Bref, elle fonctionne finalement à l'inverse de la religion. Elle ne considère pas les connaissances acquises comme étant gravées dans le marbre, et elle peut même les remettre en cause de fond en comble, en s'appuyant notamment sur une démarche qui est une démarche rationnelle, alors que la foi religieuse repose, comme on l'a vu, non pas sur la raison, mais sur l'intuition. Et la plupart des religions reposent sur des textes qui sont des textes sacrés auxquels on ne touche pas, dans lesquels les vérités se sont révélées un jour, une bonne fois pour toutes. C'est en ce sens qu'on peut avoir le sentiment, au premier abord, que la religion n'est pas rationnelle. La suite un peu naturelle de tout cela, elle est dans le dernier sujet. Est-ce que la science peut se substituer à la religion? Est-ce que ce défaut de rationalité de la religion, c'est finalement son point faible qui fait que un jour la religion sera dépassée de la même façon que certaines théories scientifiques ont été dépassées et que certaines théories scientifiques sont venues se substituer à des théories plus anciennes, etc. Est-ce que la science a ce pouvoir? Ou alors est-ce qu'il y a des questions qui sont à jamais hors de portée de la connaissance rationnelle et scientifique, qui ne peuvent donc que relever de la croyance et donc de la religion? C'est tout le problème posé par ce dernier sujet.